Est-ce que vous êtes prêts?
J'attendais ce moment avec impatience.
Attention, qu'est-ce qu'il y a? Un.
Bonjour.
Deux.
Bonjour.
Trois.
Eh bien, je vous écoute.
Parfait. Vous savez pourquoi nous sommes ici?
J'écoute, qu'est-ce que vous avez à me dire?
Surtout pas d'illusions.
Qui dois-je annoncer?
Cinérama. Cinérama.
Oui, j'ai entendu parler de ça.
Charmé de vous connaître.
Ça fait plaisir. J'ai besoin de savoir ce que signifie cette histoire.
J'ai le sentiment très net que vous tournez autour du pot.
Que désirez-vous faire?
Chaque semaine, chronique, interview et blind test.
C'est aussi simple que ça.
Je n'arrive pas à le croire.
Vous êtes différent.
Ravi de vous l'entendre dire.
Qu'est-ce que vous attendez? Un roulement de tambour?
Vous n'avez pas tout à fait tort.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, c'est une demi-heure pour parler de cinéma et puis jouer un peu. On va jouer avec des films de science-fiction teintés d'anticipation, puisque nous n'allons pas parler des Gardiens de la Galaxie en salle depuis le 3 mai, mais nous allons parler d'un formidable coffret DVD d'Abattoir 5, film de George Roy Hill des années 70. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors toi, tu as un film et il est sur Netflix.
Oui, Netflix, mais c'est une des grosses sorties du mois et puis une des grosses sorties internationales, parce que ça fait déjà un carton, hein, l'international, c'est AK.
Je vous parlerai de Nos Cérémonies, premier film de Simon Ries, mais nous allons débuter avec le film de Kelly Richard. Il était temps de le voir en salle, hein, puisque ce film Showing Up était effectivement en compétition au dernier Festival de Cannes, où il n'a rien obtenu, et c'est Marine qui nous en parle.
Bah oui, c'est le film est bien.
Cinérama.
Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?
Lydie est une sculptrice qui se consacre à préparer sa prochaine exposition. Il lui reste une semaine avant la date fatidique et autour d'elle, les sollicitations ne cessent d'augmenter. Il y a sa voisine, elle aussi artiste, dont la joie de vivre et la nonchalance sont quelque peu envahissantes. Il y a son frère atteint de troubles mentaux qui lui réclame une attention qu'elle préférerait mettre dans son art. Et il y a tous les petits aléas de la création qui font également sa vie d'artiste.
She's amazing.
First Cow racontait une amitié dépourvue de virilité toxique entre deux cow-boys du 19e siècle autour de la confection de gâteaux fabriqués avec du lait de vache volé. Depuis ce film, succès imprévu par ailleurs, Kelly Reichardt a acquis cette place ô combien convoitée de chef de file discrète d'un certain cinéma américain indépendant, dont on encense la subtilité, l'humanité, le génie carrément parfois, quitte à mon sens à extrapoler un tantinet sur le sens des images que la cinéaste produit. Showing Up est sa quatrième collaboration avec l'actrice Michelle Williams, que l'on est plutôt content de retrouver dans un rôle tout en sobriété, tout en intériorité, après les mimiques outrancières que Steven Spielberg lui a fait faire dans The Fabelman. À ses côtés, Hong Cho, qui joue sa voisine, une actrice que l'on a surtout découverte récemment dans The Whale, puisqu'elle y jouait la meilleure amie de Brendan Fraser et son infirmière. Une actrice qui continue son chemin après avoir eu un premier rôle au cinéma plutôt sur le tard, entre guillemets, à 35 ans, dans le Inherent Vice de Paul Thomas Anderson.
You know, I'm sick of not having hot water, Joe. It's such a total drag. It's such a shitty thing to do to a person. I'm sick of it. Have a great night.
Alors, le pitch officiel de Showing Up explique, je cite, qu'une artiste va puiser l'inspiration dans le chaos de sa vie. Une formulation un petit peu excessive, hein, mais les distributeurs ont leur raison que la raison ignore. Disons que dans Avengers Infinity War, lorsque Thanos claque des doigts et fait disparaître la moitié de la population de l'univers, c'est ce que l'on peut appeler le chaos. Lorsque la sculptrice Lydie, ici, n'arrive pas à terminer ses sculptures car son chat n'a plus de croquettes, ce n'est pas exactement ce que l'on peut définir par le terme chaos. Mais peut-être finalement que, comme le dit Mylène Farmer, tout est chaos. Le discours de Kelly Reichardt, c'est justement cet anti-sensationnalisme, c'est montrer la création dans ce qu'elle a de plus quotidien. Non, les artistes ne sont pas des génies qui créent sur des coups de tête. L'art nécessite de gérer sa propre vie, son emploi du temps, de travailler en parallèle sur ce que l'on veut exprimer, de se lever tous les jours pour travailler avec ses mains. Et en cela, on ne peut que remercier la réalisatrice de nous montrer enfin une artiste qui travaille dans un septième art où l'inspiration est toujours représentée comme un miracle, comme un don du ciel. Showing Up est également une réflexion sur la façon dont une femme va produire de l'art, de la façon dont elle va vivre son art, une femme dont on va encore plus attendre qu'elle prenne soin des êtres vivants autour d'elle. Le personnage de Lizzie apparaît comme antipathique ou égoïste auprès des gens qu'elle côtoie, car elle ne pense qu'à ses sculptures en permanence, car elle est névrosée, angoissée à l'approche de sa deadline. Ce face à quoi le film nous place, nous, spectateurs, c'est finalement notre propre misogynie plus ou moins intériorisée. Car si ce personnage central d'artiste était un homme, eh bien son comportement serait excusé, voire encouragé. En filmant, en disséquant cette artiste fictive, hein, par ailleurs, puisque Lizzie n'existe pas, les sculptures que l'on voit dans le film sont les créations de l'artiste Patricia Lati, Kelly Reichardt s'intéresse une fois de plus au personnage de la marge, à ceux qui sont sur le côté. Elle le fait avec un naturalisme qui peut pousser à un certain ennui, c'est vrai, mais on peut aussi admirer la méticulosité de sa mise en scène, dans laquelle la banalité est transcendée dans le cadre de la cinéaste pour devenir un langage à part entière.
Showing Up de Kelly Reichardt est en salle depuis le 3 mai. Deux frères retournent à Royan et y croisent leur amour d'enfance. On parle maintenant de nos cérémonies.
Nous sommes tous, pour autant que ces mots aient un sens précis,
Cinérama.
Parfaitement au point et incapable de nous tromper.
T'es prêt, mon frère ?
Oui, mon frère.
Top !
Présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes 2022 en compétition long métrage, c'est seulement à quelques jours de Cannes 2023 que Nos cérémonies sort sur les écrans. Premier film de Simon Rieff qui a l'avantage de ne pas jouer la tiédeur comme bon nombre de cinéastes qui doivent parvenir à convaincre, montrer leur talent tout en restant la plupart du temps dans des budgets raisonnables quand il s'agit de faire son premier film. Alors il s'agit d'une tragédie contemporaine. Le réalisateur dit s'être inspiré de Britannicus. On y voit Tony et Noé, deux frères en vacances à Royan, puis un drame que le scénario et la mise en scène vont précipiter dans un au-delà. On se retrouve 10 ans plus tard avec ces mêmes frères, toujours fusionnels, toujours à Royan. Les frangins y reviennent pour enterrer leur père et on va tirer le trait, enterrer aussi leur enfance qui ressurgit avec leur amour d'enfance. Le drame fatal du début est sans cesse rejoué comme pour l'exorciser. Eros se lie à Thanatos car pour déjouer la mort, il faut offrir un baiser.
C'est compliqué de vivre avec lui.
Laisse-moi mourir alors! Arrête de me ramener!
C'est comment la mort?
Tout le film de Simon Rieff capte la fin de l'adolescence. Le seul repère des adultes, c'est une engueulade des parents hors champ pendant l'enfance ou le père sur son lit de mort. Mais c'est aussi ce passage à l'âge adulte et comment le cadet des frères va devoir affronter la vie, ce que le présent lui offre. Il est renfermé, taiseux, à l'inverse de son frère qui, lui, est ouvert et prompt à mettre en avant sa masculinité et son sexe à pile. Le réalisateur accompagne cette mue qui va conduire au choc avec une mise en scène radicale. Donc, la mer à Royan n'aura jamais été aussi bleue. Alors pour moi qui ai vécu là-bas quelques étés, vraiment mémorables et vraiment appréciables dans l'embouchure de la Gironde, je n'ai absolument pas reconnu la mer. L'image est colorée, contrastée. Avec ça, le réalisateur a fait le choix du cinémascope. Alors cette image au demeurant plastique s'accorde avec les corps qu'il filme. On reprochera tout de même des dialogues parfois inaudibles et insignifiants. Mais l'effort du réalisateur est ailleurs, dans l'image, la mise en forme, le déploiement de cette image qui se fait par moments fantastique. À ceux qui veulent tout comprendre, il va être difficile de recommander le film. Mais à ceux qui veulent l'expression d'un geste cinématographique, voilà de quoi les contenter. Nos cérémonies est en salle depuis le 3 mai. Billy a le don de voyager dans le temps. Il se retrouve projeté dans des conflits armés du passé. Nous allons parler maintenant de Abattoir 5 de George Roy Hill.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Au début de 1945, un groupe de soldats américains fut fait prisonnier par les Allemands. Ces hommes furent emmenés en captivité à Dresde. Parmi eux, il y avait un garçon de 20 ans qui s'appelait Kurt Vonnegut Jr. 20 ans plus tard, il écrivit un livre dont le titre est Abattoir 5.
Derrière le titre Abattoir 5, qui évoque un film d'horreur malsain dans la veine de Massacre à la tronçonneuse, se cache un des fleurons majeurs de la science-fiction adulte des années 70, plus proche de Je t'aime d'Alain René par son ton intimiste et décalé que de 2001, même si le film partage un certain nombre de thématiques qui sont communs avec celui du film de Stanley Kubrick. Alors à l'origine, il s'agit d'un roman écrit en 1969, sorti sous le titre Abattoir 5 ou La croisade des enfants, écrit par l'un des maîtres de la science-fiction contemporaine, Kurt Vonnegut. Alors de prime abord, il est étonnant de retrouver George Roy Hill derrière la caméra qui, entre deux succès importants, Butch Cassidy et Le Kid et l'Arnaque, deux divertissements de haute volée avec le duo Paul Newman-Robert Redford, il réalise sans doute le meilleur film d'une carrière intéressante et un peu oubliée aujourd'hui. À y regarder de plus près, Abattoir 5 prolonge des thématiques souvent présentes chez George Roy Hill, en l'occurrence la fuite du réel à travers le portrait de personnages se réfugiant dans le monde de l'enfance. Œuvre atypique d'un roman souvent jugé inadaptable, Abattoir 5 est quasi irracontable, construit sous la forme d'un récit fragmenté, totalement raccord avec le sujet, loin de la linéarité du cinéma traditionnel hollywoodien.
Le patient était prisonnier de guerre à Dresde pendant le bombardement. Il prétend que plus de 100 000 personnes y périrent brûlées vives, plus qu'à Hiroshima. Et puisqu'il se trouvait effectivement à Dresde, il est assez normal de penser que tout ceci a pu contribuer à le mettre dans son état actuel.
Il est prêt, docteur.
Vous allez dormir maintenant, Billy.
Bill Pilgrim est un personnage lunaire et fantasque qui regarde le monde avec un pas de côté. Il a surtout cette capacité rare de voyager dans le temps et l'espace, ou plutôt de ne pas se fixer dans une temporalité. C'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas ses allées et venues au gré et du hasard dans sa vie passée, présente et future. Sa présence pendant la Deuxième Guerre mondiale, où il s'est retrouvé prisonnier, sa petite existence en tant qu'opticien avec sa femme et ses enfants, sa propre mort, et même son excursion fantasy sur la planète Tralfamador en compagnie d'une starlette du petit écran. Mais qui est Pilgrim, que l'on peut littéralement traduire par pèlerin? Effectivement, une sorte de pèlerin au pouvoir extraordinaire, capable, alors même par défaut, de prédire l'avenir, ou alors peut-être un individu banal mais mal dans sa peau, qui pour survivre d'un trauma à la guerre s'est réfugié dans l'imaginaire et les souvenirs. Alors le film ne tranche pas disséminant les indices validant les deux interprétations, même si au fond cela n'a guère d'importance. Réel ou fantasmé, l'histoire de Pilgrim n'en est pas moins passionnante, un jeu de pistes mélancolique déployant une vision du monde désenchantée mais aussi plein d'ironie et d'humanité, brassant un nombre de thèmes vertigineux en l'espace d'1h40.
Abattoir 5, c'est l'histoire de Billy Pilgrim, un homme qui a vu souvent sa vie et sa mort et qui sait comment finit le monde.
Tout d'abord, le film fonctionne comme un réquisitoire terrible contre la barbarie toute forme de violence à travers un discours antimilitariste très présent en ce début des années 70, période où l'Amérique s'enlisait au Vietnam. D'ailleurs, dans le roman, Vonnegut raconte précisément des événements qui lui sont arrivés, notamment l'horreur qui s'est abattue sur la ville de Dresde en 1945 pendant qu'il était soldat. Cette idéologie foncièrement pacifiste, jusqu'à ne pas caricaturer les soldats allemands, se double d'une satire au vitriol de l'Amérique conservatrice des années 50-60, du consumérisme bêta, des valeurs familiales obsolètes, pour se clore par une critique de la société du spectacle. Alors Abattoir 5 est un pamphlet magnifique sur le libre arbitre, un conte pour adultes sur un candide des temps modernes qui doit toute sa force à sa mise en scène prodigieuse, association de talents qui se complètent harmonieusement, de la musique de Bach interprétée par Glenn Gould, de la splendide photographie de Miroslav Odrinsek, qui était le chef-op attitré de Milos Forman, du travail incroyable de montage par Dede Allen, monteuse de Bonnie and Clyde, mais aussi de la plupart des films d'Arthur Penn. Enfin, Michael Sacks prête idéalement son visage naïf et ailleurs pour incarner Bill Pilgrim, l'un des personnages les plus insolites de l'histoire du cinéma. Alors brillamment structuré, à la fois heurté par les sauts dans le temps abrupts et très fluide par la cohérence de la réflexion, Abattoir 5 est sans doute l'un des chefs-d'œuvre de la SF contemporaine, devenu culte alors que ce fut un échec en salle à sa sortie, une œuvre poétique et subversive à la richesse inépuisable qui ne peut se satisfaire d'une seule vision. D'ailleurs, vous pouvez le revoir plusieurs fois, puisque le film est édité donc en Blu-ray chez Carlotta, qui ne cesse de ressortir des pépites du patrimoine.
Et ça nous donne l'occasion de jouer un blind test spécial film de science-fiction. Alors, teinté d'anticipation, évidemment, c'est souvent le cas. Hein. Le film de science-fiction est rare car il coûte cher. Alors, en ce moment, il y a les Gardiens de la Galaxie au cinéma. Alors, il peut nous emmener loin ou nous laisser sur Terre, souvent ravagés ou mal en point, et on touche alors à l'anticipation, bien que la crédibilité soit rarement au rendez-vous. Donc, le principe du blind test, vous le connaissez, ce sont 5 extraits, il faut trouver le titre des films. Et précisons tout de suite que ce blind test, sur une échelle de facilité de 1 à 10, va jusqu'à 10, donc il est facile.
Le jour où je suis né, alors que je n'étais âgé que de quelques secondes, le moment exact et la cause de ma mort étaient déjà connus.
Affection neurologique, 60% de probabilité. Psychose maniaco-dépressive, 40% de probabilité. Hyperactivité, 89% de probabilité. Trouble cardiaque, 89% de probabilité. Risque de mort prématurée. Espérance de vie, 30 ans et 2 mois.
30 ans.
Le nom sur le certificat ? Anton.
Non, Vincent, Anton.
Et c'est trouvé.
Oui, c'est Bienvenue à Gattaca d'Andrew Niccol, le film qui l'a fait exploser d'ailleurs en tant que scénariste, mais aussi en tant que réalisateur là pour le coup.
Le film de 1997 qui n'a pas si bien marché que ça finalement en salle, il a eu son succès après, avec Ethan Hawke, Uma Thurman et Jude Law. Gattaca est un centre d'études et de recherche spatiale pour des jeunes gens au patrimoine génétique impeccable. Jérôme, candidat idéal, voit sa vie détruite, lui, par un accident, tandis que Vincent, enfant naturel, rêve de partir pour l'espace. Chacun des deux va permettre à l'autre d'obtenir ce qu'il souhaite en déjouant les lois de Gattaca. 467 000 entrées en France. Deuxième extrait de ce blind test consacré un film de science-fiction teinté d'anticipation.
Tu as quelque chose à demander ? Eh bien, parle ! Fais un effort, parle ! Ah, toi, tu veux un morceau de sucre, je parie.
Attention, il pourrait vous faire mal, docteur.
Oh, mais ne soyez pas ridicule, il est tout à fait apprivoisé.
Ouais, ils sont apprivoisés jusqu'au jour où ils vous mordent.
Bonjour, beaux yeux. Est-ce que notre gorge va mieux ? Tu as encore très mal, n'est-ce pas ?
Vous voyez ? Il continue à faire semblant de savoir parler.
Ce beau yeux est extraordinaire. Depuis qu'il est là, il essaie de former des mots.
Vous savez bien que les hommes aiment faire des grimaces.
Alors, il y avait beaucoup d'indices, ça a été trouvé.
C'est La planète des singes de Franklin F. Schaffner.
Oui, film de 1968 avec Charlton Heston, beau yeux. C'est basé sur le roman La planète des singes, écrit par le français Pierre Boulle. Égaré dans l'espace-temps, un engin spatial américain s'écrase, alors en 3978 sur une planète inconnue. Et les trois astronautes découvrent que les hommes primitifs de cette planète mystérieuse sont placés sous le joug de singes très évolués. 1,7 million d'entrées en France. Il y a eu ensuite 4 autres films. Donc ça a fait une saga.
En fait, il y a eu 4 suites. Assez direct, il y a eu une série télé et puis il y a eu 3 nouveaux films
que je trouve exceptionnels d'ailleurs.
Ils sont super, ouais.
Oui. Allez, troisième extrait de ce blind test.
Vous vous rappelez quand vous aviez 6 ans. Vous et votre frère, vous vous êtes glissés dans un immeuble vide, à travers la fenêtre de la cave. Vous vouliez jouer au docteur. Il vous a montré le sien. Et quand ça a été votre tour, vous vous êtes dégonflé, vous vous êtes enfui. Vous vous rappelez ? L'avez-vous jamais dit ? À votre mère, à Tyrell, à n'importe qui. Vous vous souvenez de l'araignée qui vivait dans les buissons devant votre fenêtre ? Un corps orange, des pattes vertes. Vous l'avez regardé faire sa toile tout l'été. Et un jour, vous y avez trouvé un gros œuf. L'œuf a éclos.
L'œuf a éclos ?
Et ?
Des centaines de bébés araignées sont apparus. Ils l'ont mangé.
Ce sont des implants. Ce ne sont pas vos souvenirs, ce sont ceux de quelqu'un d'autre. Ceux de la nièce de Tyrell.
Alors, il y avait plusieurs indices et c'est trouvé.
C'est Blade Runner de Ridley Scott.
Oui, film sorti en 82 avec la voix française d'Harrison Ford. À la fin du XXe siècle, nous sommes dans un monde où une nouvelle race d'esclaves voit le jour pour peupler les colonies, des androïdes que rien ne peut distinguer de l'être humain, les réplicants. Et le modèle le plus perfectionné est déclaré hors la loi et un agent d'une unité spéciale, un Blade Runner, doit éliminer 4 d'entre eux qui sont à Los Angeles. 2 millions d'entrées en France. Quatrième extrait de ce blind test consacré au film de science-fiction.
Mais il y a une petite complication. Sa planète est beaucoup plus proche de Gargantua qu'on ne croyait.
Gargantua ?
Le nom qu'on a donné à ce trou noir. Les planètes de Miller et de Mann sont en orbite autour de lui.
Celle de Miller est sur son horizon ?
Comme un ballon de basket qui tourne sur le cercle. Tenter d'y atterrir serait dangereux. Il y a une force gravitationnelle colossale qui émane d'un tel trou noir.
Je peux faire un crochet autour de cette étoile à neutrons pour décélérer.
Non, c'est pas ça le souci. C'est le temps. La gravité de cette planète va ralentir notre horloge par rapport au temps terrestre. De façon radicale.
Annoncez la couleur.
Eh bien, chaque heure passée sur cette planète équivaudra à... 7 années sur notre vieille Terre. Bah quoi, les amis, c'est la relativité ?
Trouvé.
C'est Interstellar de Christopher Nolan.
Oui, film de 2014. Le film raconte les aventures d'un groupe d'explorateurs qui utilisent une faille récemment découverte dans l'espace-temps afin de repousser les limites humaines et à partir à la conquête des distances astronomiques dans un voyage interstellaire, d'où Interstellar. 2,6 millions d'entrées en France et sans doute des gens qui sont allés le voir une deuxième fois pour mieux comprendre. C'est un peu ce qui se passe avec certains films de Christopher Nolan. Dernier extrait de ce blind test.
Bonjour. Avant toute chose, je souhaiterais m'expliquer.
C'est une violation de l'article 2219 du Code pénal aujourd'hui à l'arrêt de bus 34.
Oui, c'est exactement de ça que je voulais vous parler. Je pense que c'est un malentendu.
Probation rallongée de 8 mois avec effet immédiat. Ouais,
pardon, non. Non, mais je vous explique. J'ai juste fait une plaisanterie. Et.
Arrêtez de parler.
Et c'est là que.
Accélération du rythme cardiaque détectée. Souhaitez-vous un cachet ?
Non. Merci beaucoup. Par contre, j'aimerais bien expliquer ce
que... La matrice de personnalité indique un risque de 78,3% de régression vers d'anciens schémas comportementaux. Vol de véhicule, agression à main armée, rébellion lors de l'interpellation. Souhaitez-vous parler avec un humain ?
Non, ça ira. Merci beaucoup.
Êtes-vous sarcastique et ou injurieux ?
Négatif.
Alors, ça coince un peu ici dans les studios. Je ne sais pas si vous, auditeurs, vous avez trouvé. C'était la voix française de Matt Damon, déjà.
Ouais, ça, j'ai reconnu, mais...
Voilà. Alors, il est confronté donc une espèce de droïde hein, qui vraiment lui en laisse pas placer une. Nous sommes en 2154. Il existe dans ce monde deux catégories de personnes. Il y a les très riches qui vivent sur une parfaite station...
Voilà. C'est le film de Neil Blomkamp, oui.
Oui. Donc, il y a les très riches qui vivent donc sur une station spatiale qui s'appelle Elysium. Et puis, les autres qui, eux, restent sur Terre, une Terre devenue surpeuplée et ruinée. Et un homme doit atteindre Elysium pour sauver alors non seulement sa vie, mais aussi celle de millions de personnes sur Terre. Sinon, ce ne serait pas amusant du tout. 1,5 million d'entrées en France pour ce film de 2013. Ainsi s'achève donc ce blind test consacré aux films de science-fiction, teinté souvent d'anticipation, puisque nous parlions d'Abattoir 5. Et puis aussi, on faisait un petit clin d'œil au Gardien de la Galaxie, donc en salle depuis le 3 mai. Changement d'univers, avec un agent infiltré effectuant le sale boulot partout où il est nécessaire, Adam Franco doit intégrer une organisation mafieuse en France pour déjouer un attentat terroriste. C'est AK, c'est sur Netflix, et puis bah, c'est l'occasion de savoir ce que donne une production française après Balles perdues.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Personne ne savait qu'il était sur le territoire. Faut le retrouver.
J'ai la personne qu'il faut.
Plus ces années passent et plus le nouveau monde eh ben, ressemble à l'ancien monde. Jadis chantre autoproclamé hein, de formats nouveaux et de formules inédites, le net et le streaming ne cessent de se casser en quatre pour rentrer péniblement dans le moule ben, de ce qu'ils ont auparavant vilipendé, ben, la télévision et le cinéma. Et oui, ici aussi, lorsqu'une formule marche, ben, on la décline jusqu'à plus soif, histoire que ce qui était à la base un petit film devienne un produit ultra rentable. Alors on a eu en 2020 Balles perdues de Guillaume Pierret, très imparfait mais très sympathique film d'action avec Alban Lenoir en tête d'affiche, ayant la particularité d'avoir été tourné dans le sud de la France et de proposer une alternative. Mais au plus gros film d'action français, genre assez moribond car peu exploité en salle obscure. Alors fort hein, du gros succès, ou tout du moins du nombre de vues, la plateforme a produit Balles perdues 2, hein, qui est venu faire grincer quelques dents hein, 2 ans plus tard hein, avec la même équipe. Enfin surtout mes dents, hein, parce que face au peu de progrès effectués depuis le premier film, et ce malgré bah, quelques scènes agréables et spectaculaires, on a vite compris que la proposition était moins excitante en vrai, hein, mais cela n'a pas empêché Balles perdues 2 d'être à nouveau un gros succès. Alors en attendant, bien sûr, Balle perdue 3, hein, actuellement en production avec toujours la même équipe, voilà Aka hein, de Morgan S. Dalibert, qui est autre que bah, le chef opérateur de Balle perdue. Et bah, comme pour Balle perdue 2, Alban Lenoir vient mettre la main à la pâte, ou plutôt sur le stylo, car il s'est également impliqué derrière la caméra, car il co-signe également l'écriture de manière générale. Alors le tout emballé et livré par Netflix, vous l'avez bien sûr compris.
Ça fait 20 ans qu'il bosse pour nous. Tu peux l'activer.
C'est qui ce gars ?
Un chef de guerre soudanais. Il s'est radicalisé. Il a contacté Victor Pastor. On a peur qu'il l'aide à organiser un nouvel attentat. Tu vas infiltrer son organisation. Il te fasse confiance.
Il y a une baston hier soir. Le nouveau, là. Apparemment, le mec, quand il cogne, c'est Tyson Fury. Tu donnes un coup, tu ramènes.
Avant de rentrer dans le vif, bah, Kazako, hein, Aka. Aka hein, est un acronyme hein, qui désigne en anglais As Known As, hein, qui veut dire également connu sous le nom de. Alors vu que c'est court et que ça fait cool, hein, c'est adopté par tous les bons français comme alternative de alias, et ça permet de se payer un titre d'exploitation international ni vu ni connu dans la foulée. Des alias ou des identités nombreuses ou alternatives, il va forcément en être question ici, car Aka raconte l'histoire donc d'Adam Franco, Alban Lenoir, hein, qui joue un agent infiltré. Sans pitié, il est une véritable machine de guerre une fois lancé sur le terrain et honore ses missions de la façon la plus définitive qui soit, quelle que soit la cible à atteindre. Ce soldat parfait va se retrouver mêlé à une histoire incluant une organisation mafieuse à infiltrer pour mieux remonter jusqu'à un terroriste en liberté sur le territoire français et qui menace de commettre un attentat meurtrier dans les jours qui viennent. Alors au milieu de ces nouvelles têtes et personnalités diverses, il va s'enticher de l'enfant d'un patriarche mafieux joué par l'inénarrable Eric Cantona et va baisser suffisamment sa garde pour se laisser affecter par des choses qu'il n'aurait jamais tolérées auparavant. Ce surplus hein, d'humanité, aussi soudain qu'inattendu, va bien évidemment orienter sa mission dans un hors-piste dangereux et l'amener à reconsidérer ce qui était devenu une priorité pour lui depuis ses 15 ans. Pas mal hein, pour quelqu'un qui n'a plus de véritable identité, mais qui va se retrouver confronté à son passé et ses démons intérieurs, alors que l'enfer se déchaîne autour de lui et que la course contre la montre se précise d'heure en heure.
Depuis hier, j'ai ton nom qui me trotte dans la tête. Adam Franco. C'est pas d'un chauffeur dont j'ai besoin pour le petit. C'est d'un garde du corps. Une nouvelle vie, une nouvelle identité.
On le voit au résumé, Aka n'est pas ici pour réinventer la roue du genre, et c'est précisément ce qui le rend bien sympathique et bien mené. Alors parfaitement conscient de son héritage et des codes de ce type de récit, Morgan S. Dalibert et Alban Lenoir cochent ben, toutes les bonnes cases pour que le divertissement se déroule de la façon la plus agréable possible. En bons passionnés et artisans au service de leur film, ils livrent un long métrage bien sûr pas exempt de défauts et moins spectaculaire par moments que Balle perdue 2, mais plus humain car plus fouillé et ne sacrifiant pas forcément tout sous l'autel de l'action tournée caméra à l'épaule. L'avantage d'Aka, bah, outre sa mise en scène hein, plus travaillée hein, que le film précipité et ce malgré un petit ventre mou aux trois quarts et une fin un peu expédiée, bah, c'est qu'il prend du temps avec ses personnages et arrive à créer une ambiance alors que nous sommes bon, bah, en terrain connu. Hein. On reconnaît bien évidemment le poids et l'influence de Man on Fire, hein, probablement le chef-d'œuvre hein, de la carrière de Tony Scott, référence totalement assumée par l'équipe, hein, mais également des réminiscences du superbe Le Professionnel de George Dotner, avec l'immense Bébel en barbouze désavoué qui va faire d'une mission au long cours une histoire personnelle de vengeance tragique. Alban Lenoir continue de prouver bah, qu'il est une star française d'envergure internationale, et on espère bah, que ses productions Netflix, qui l'aident à servir au mieux, bah, redonneront une impulsion au cinéma d'action français comme avait tenté de le faire EuropaCorp, ben il y a désormais 20 ans avant de s'effondrer. Netflix étant une porte sur le monde et le film étant déjà parmi ben, les meilleures fréquentations de début mai, on rêve hein, que cela donne des idées aux producteurs français pour les salles obscures, cette fois-ci.
Vous l'avez compris, Aka est sur Netflix et vous savez comment ça se passe, soit vous êtes abonné, soit vous connaissez quelqu'un qui a les codes et qui peut vous les donner.
Alors,
c'est fini l'heure des visites, on va fermer. Du large.
Quoi ?
Vous avez délivré le message, adieu.
C'est une idée fantasque.
Terminé pour aujourd'hui.
J'ai passé un très bon moment.
C'est vrai.
Ça se termine toujours comme ça.
Il ne me reste que vous remercier de votre générosité.
Guillaume, on se retrouve la semaine prochaine avec un seul film en ce qui te concerne.
Oui, mais toujours un film français. Ce sera le principal de Chattanooga.
Quant à Manu, il nous parlera du dernier Sokurov et nous parlerons aussi du cours de la vie à la semaine prochaine.
Carl, est-ce que tu me reçois ? Carl, est-ce que tu me reçois ?
Affirmatif, Dave. Je vous reçois 5 sur 5.
Je te prie d'ouvrir la porte extérieure A.
Je regrette, Dave. Cela m'est malheureusement impossible.
Qu'est-ce qui ne marche pas ?
Je crois que vous savez aussi bien que moi ce qui ne marche pas.
Qu'est-ce que tu entends par là, Carl ?
Cette mission est trop importante pour moi. Je ne puis tolérer que vous la mettiez en péril.
Je ne sais pas du tout ce que tu veux dire, Carl.
Je sais que Frank et vous aviez l'intention de me déconnecter. Je regrette, mais je ne puis absolument pas courir ce risque.
Mais qu'est-ce qui a pu te donner cette idée-là ?
Dave, en dépit des précautions minutieuses que vous preniez dans la sphère pour m'empêcher de vous entendre, j'ai pu observer le mouvement de vos lèvres.
Cinérama. 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 Cinérama.